Alors ce matin, j'ai pas pris un thème particulier. Mais ce que je vous propose, c'est de lire ensemble le chapitre 17, donc un chapitre entier de l'évangile de Jean. Alors, il y a une pensée sur le verset 17 d'ailleurs de ce chapitre qui nous a été partagé par notre pasteur fin janvier, Jean 17:17. Mais en lisant le chapitre entier, j'ai eu à cœur en fait de le reprendre avec vous dans son intégralité. Et puis voilà, je vais pas pouvoir détailler tout parce que sinon il me faudrait bien plus que le temps ce matin, si on voulait s'arrêter sur tout développer. Mais je vais essayer voilà, de prendre avec vous verset par verset, puis de reprendre les idées principales, en tout cas, de ce chapitre. Alors, l'événement qui nous est présenté dans ce chapitre, pour remettre aussi dans le contexte, donc, se déroule à la fin du ministère de Jésus sur la terre, juste avant l'accomplissement final du plan de Dieu, avec l'arrestation de Jésus, avec sa mort sur la croix, puis sa résurrection. Pendant son ministère, Jésus a agi, s'est consacré à la formation de ses disciples, avant de les réunir pour un dernier repas, au cours duquel il leur a donné aussi un dernier enseignement, des dernières recommandations, on pourrait dire aussi. Le chapitre 16 du même évangile nous relate ce discours, qui avait pour but aussi de préparer les disciples à son départ, à sa glorification, à une communion invisible et spirituelle aussi avec lui, et un discours que Jésus termine d'ailleurs par cette phrase triomphante, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Alors à ce moment-là, juste après donc, le partage du repas de la Pâque avec les disciples, et aussi immédiatement avant que Jésus se rende au jardin de Gethsémané, Jésus sait forcément déjà ce qui va arriver. Il sait que Judas vient de partir pour aller le vendre au prix d'un esclave. Et il souhaite aussi sûrement se rendre rapidement au jardin où il pourra y prier seul, se rapprocher de son père. Comme il le faisait régulièrement d'ailleurs lors de son ministère, il allait sur la montagne. Mais pourtant, avant d'y aller, Jésus prend le temps de prier à haute voix, devant ses 11 disciples encore là. Jésus prend le temps pour se présenter devant le Père, devant son Père, en médiateur et représentant des siens, pour une suprême intercession. Alors dans cette prière, Jésus va prier pour lui-même en rappelant ses rapports avec son Père dans la gloire, va prier pour ses disciples qui cette nuit même vont le perdre, et prie aussi pour les futurs croyants, pour tous ceux qui croiront en lui et qui répondront à l'appel de l'Évangile. Alors lisons ce chapitre, si tu l'affiches Théo, tu peux le prendre dans la version second 21, parce que je l'avais pris dans ce texte-là. Et on reprendra ensuite verset par verset, en essayant de se placer dans la même attitude que les disciples peut-être ce soir-là, c'est-à-dire humblement, c'est-à-dire avec respect, c'est-à-dire en nous plaçant devant notre Seigneur et en étant à son écoute. Alors Jean chapitre 17. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptés, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé, que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en vous. Amen. Alors revenons sur les 5 premiers versets. Père. Jésus commence avec ce nom qu'il prononce en tout 6 fois, avec amour dans cette prière. Père. Un nom qui résume devant ses disciples, en fait, toute la théologie du Christ. Un beau et doux nom que le Seigneur nous a autorisé aussi à utiliser pour invoquer Dieu. On le voit quand il nous a enseigné à prier. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux. Ce nom que je vous invite à utiliser dans vos prières encore aujourd'hui, car, quoiqu'effectivement Dieu fût le Père de Jésus dans un sens unique et exclusif, nous pouvons considérer Dieu comme un Père, car en Christ, nous avons été rachetés par lui. Nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Romains chapitre 8, verset 15, nous pourrons trouver ce verset. Alors oui, nous sommes enfants de Dieu. Et Père, l'heure est venue. Si nous revenons un peu en arrière au chapitre 2 de cet évangile, au verset 4, alors que Marie demande à Jésus d'intervenir lors d'un repas de noces à Cana, en raison du vin qui vient à manquer, Jésus lui a répondu, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant, l'heure est venue. » Alors de quelle heure parle-t-on ? De cette heure où Jésus va se livrer volontairement pour être crucifié. De cette heure qui est marquée par la volonté souveraine de Dieu, à partir de laquelle les adversaires n'étaient plus impuissants pour entreprendre quelque chose contre Jésus. Avant cette heure, ils ne pouvaient rien. Dans Jean chapitre 7, verset 30, on peut lire aussi, « Ils cherchaient donc à se saisir de lui, lui étant Jésus, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Mais désormais, encore une fois, l'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Comme c'est écrit aussi dans Jean chapitre 12. Alors oui, Père, révèle la gloire de ton Fils, nous dit la suite du verset 1. Cette gloire que Jésus détenait avant qu'il soit envoyé sur la terre. Une gloire que Jésus redemande ici, mais pas pour lui-même, pas pour se mettre en avant. Mais afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Comme toujours, comme l'exemple qu'il nous a donné pendant toute sa vie sur la terre, son seul motif, le seul motif de Jésus, de Christ, c'est la gloire de son Père, la gloire de Dieu. Sa seule volonté, c'est que toute gloire lui revienne à lui, notre Dieu. Le verset 2 nous dit que Dieu lui a donné pouvoir sur tout être humain. Une puissance, une autorité sur tous les hommes, confiée à Christ seul, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Un pouvoir donc non pour son orgueil, pour son plaisir, pour ses désirs. Un pouvoir qui lui a été donné dans un seul but, le salut de tout homme, toute femme qui croirait en lui et qui placerait sa confiance en lui. Aucun roi sur la terre, aucun président, même les plus sages, n'a jamais pu réussir en fait à ne pas, à un moment donné de sa vie, faire des choses selon ses désirs, faire des choses pour lui. Alors imaginez donc ce qu'ils auraient fait avec un tel pouvoir. Mais celui-ci a été donné à Jésus. Lui, le seul qui était et qui est digne de cette autorité qui lui a été donnée. Lui, le roi serviteur, qui seul pouvait accepter de se placer aussi parfaitement sous l'autorité de Dieu, alors qu'il détenait ce pouvoir, pour sauver ceux que Dieu lui a donnés. Pas ce que lui, Christ, souhaitait, mais bien ce que Dieu a choisi. Et c'est à eux que Jésus accorde la vie éternelle. Une vie éternelle qui ne se trouve qu'en Jésus, qu'en Jésus seul, qu'en la connaissance de Christ, et par là donc en la connaissance de Dieu. Ce que nous dit le verset 3 qui suit. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour comprendre ce verset, il faut avant tout aussi se souvenir que dans le style de l'Écriture, en particulier aussi dans l'Évangile de Jean, connaître n'est pas un acte simplement intellectuel, mais c'est un rapport plein de confiance et d'amour avec l'être connu, une communion de cœur avec lui. 1 Corinthiens chapitre 8 nous dit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu, comme il faut connaître. Et si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Et si nous entrons dans cette relation personnelle avec Christ, connaître Dieu le Père, connaître le Fils, n'est alors pas seulement la condition, le moyen de parvenir à la vie éternelle, mais c'est en fait cette vie éternelle elle-même, naissante et grandissante dans l'âme dès aujourd'hui, ici sur la terre, pour s'épanouir un jour dans la perfection du ciel. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Versets 4 et 5. Jésus avait glorifié Dieu par sa vie tout entière sur la terre, par ses paroles, par ses actes. Et maintenant que l'œuvre est accomplie, il demande sa réintégration dans la gloire éternelle. Il demande à retrouver auprès du Père la place qu'il détenait auparavant. Ces termes par lesquels Jésus désigne cette gloire qu'il redemande à son Père renferment encore une fois toute une révélation sur sa personne, sur sa préexistence. Jésus et Dieu ne font qu'un, et Jésus était là avant la création du monde. Jean nous le révèle d'ailleurs aussi dès les premiers mots de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Cette gloire qu'il possédait, Jésus s'en était dépouillé, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, en paraissant comme un vrai homme. Et maintenant, il demande à Dieu de lui rendre la pleine possession de sa gloire passée. S'il demande maintenant ainsi à être glorifié, ce n'est pas seulement aussi pour retrouver la béatitude, le bonheur parfait dans la communion du ciel, mais aussi et surtout car celle-ci lui est nécessaire pour la suite. Ce n'est qu'après être rentré dans la plénitude de sa puissance divine, dans cette gloire qu'il pourra, en manifestant justement les attributs divins de la toute-puissance et de la toute-présence, qu'il pourra achever son œuvre par l'envoi du Saint-Esprit et par l'établissement de son règne dans le monde. Jean chapitre 7 nous dit « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Aujourd'hui, Dieu nous fait cette grâce de savoir comment Jésus fut exaucé sur ces premiers versets. Sa résurrection, son avènement attestent qu'il a retrouvé sa position glorieuse à la droite de Dieu. Dieu mit sur le sacrifice de son Fils, aux yeux du monde entier, le sceau de son approbation divine. Je vais lire deux passages, Actes chapitre 7, versets 55-56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. » Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 23, Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Les versets 6 à 8, ensuite, que plusieurs considèrent aussi comme parfois appartenant encore à la prière de Jésus pour où il vient de nous rappeler justement qui il était, aussi, qui nous rappelle son œuvre, sont en réalité aussi une transition vers sa prière pour ses apôtres. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, eux, mes disciples. Jésus exprime ici le fait que, par l'effet de l'enseignement qu'il leur a donné, de l'action qu'il a exercée sur eux, ses apôtres sont désormais bien préparés à recevoir les grâces nouvelles qu'il va demander en leur faveur à Dieu, son Père. Désormais, ils savent que tout ce qui lui a été donné vient de Dieu. Ils ont gardé ta parole, la parole de Dieu. Ils ont accepté cette parole. Jésus lui-même, lui la parole vivante. Et ils ont cru. Alors oui, verset 9, Jésus dit « C'est pour eux que je prie, pour mes disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Et si on va aussi jusqu'au début du verset 10, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Pourquoi cette distinction ? C'est pour eux que je prie et je ne prie pas pour le monde. Pourquoi cette exclusivité, pourrait-on dire, dans la prière de Jésus ? Est-ce parce qu'il ne s'intéresse pas ou ne se soucie pas des autres, de tous les hommes de la terre ? Bien sûr que non. Jésus lui-même, si on prend Matthieu chapitre 5, nous a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc oui, Jésus nous demande de prier pour tous, pour tous les hommes. Parce qu'au final, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Mais dans cette prière, Jésus ne parle pas de cela. Il ne parle pas de la charité, il ne parle pas de cet amour-là. À ce moment-là, Jésus voulait intercéder pour ses disciples, eux qui ont une place à part. Eux qui, comme nous le verrons aussi tout à l'heure, sont différents du monde. Eux qui même ne sont pas du monde. Et surtout eux qui sont à toi mon Dieu, à toi mon Père. Alors frères et sœurs, une question ce matin, ou plus, même peut-être plus pour les parents encore. S'il y avait un incendie dans votre maison ce soir, et que vous ne pouviez en tirer qu'une seule chose, est-ce que vous hésiteriez-vous un instant sur ce que devrait être cette seule chose ? Ne porteriez-vous pas votre enfant pour le sortir au plus vite de la maison, en laissant tout le reste, en fait, brûler, se consumer dans les flammes? Eh bien, il en est ainsi de Dieu. Dieu se soucie de son peuple au-delà de tout le reste. Il est le Seigneur Dieu d'Israël, et en Israël, il a établi son nom. Et là, il prend son plaisir. Voilà pourquoi Jésus prie ainsi pour son peuple, pour ses disciples, qui sont à lui également. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Qui sur la terre est capable de dire cela ? Tout ce qui est à moi est à toi, cela n'importe qui peut le dire, même si ça demande déjà de se mettre un peu, on va dire, en arrière, de s'humilier. Mais c'est possible. Mais affirmer l'inverse et dire « tout ce qui est à toi est à moi » en parlant à Dieu. Aucune créature terrestre ne peut le prétendre devant Dieu. Personne, sauf celui qui était dans une unité absolue avec le Père, soit le Fils Jésus-Christ. Et je suis glorifié en eux. Comment ? Comment Jésus a-t-il pu être glorifié en ces simples hommes qui étaient ses disciples ? Christ est glorifié déjà en ce qu'ils ont cru, et en ce qu'ils l'ont aimé. Mais la gloire de Dieu correspond surtout à la révélation de son caractère et de sa présence dans notre vie. Et la vie des disciples de Jésus a révélé son caractère. Par leur attitude, en étant aimants, indulgents, tendres, doux, ils ont glorifié Christ en eux. En restant droits, intègres, en gardant leur conscience pure, en servant Christ, en supportant et souffrant pour son nom, ils ont glorifié Christ en eux. En bénissant Dieu des circonstances qu'ils rencontraient dans leur vie, au lieu de se lamenter, de se plaindre, ils ont glorifié Christ en eux. Par leur témoignage vivant, en faisant de lui l'objet de toute leur confiance, ils ont glorifié Christ. Simplement en cherchant à lui ressembler chaque jour un peu plus. Et pour nous, frères et sœurs, notre vie révèle-t-elle le caractère et la présence de Dieu ? Est-ce que le Seigneur pourrait dire ce matin en nous regardant : Je suis glorifié en toi, Samuel, je suis glorifié en vous ? Je continue au verset 11. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les. Jésus ne dit pas « Je vous garderai une fois que je serai entré dans ma gloire ». Non, il demande que ses disciples soient gardés au nom du Père. Il prie le Père pour leur protection, pour que leur foi soit protégée. C'est le Père qui garde. Comme c'est le Père qui, à la prière de Jésus, enverra aussi le Saint-Esprit sur eux. Jésus a dit « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur pour être avec vous éternellement. » Parce que oui, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. Mais cet avocat ne se substitue pas au Père. Il lui remet ses disciples, en se remettant d'ailleurs lui-même entre les mains paternelles. Et Jésus prie ainsi, garde-les, car il sait que ses disciples en ont besoin. Parce qu'il va les quitter et les laisser sans lui dans ce monde ennemi de Dieu et de son règne, où ils rencontreront à chaque pas de nouveaux dangers. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Le but de cette ardente prière, la volonté de Christ, qui est aussi la volonté de Dieu avant même la création du monde, est que ses disciples, que tous ses disciples, donc nous aussi aujourd'hui, soient unis dans l'harmonie et l'amour, à l'image de la plus forte des unions, celle qui existe entre le Père et le Fils. Une unité qui ne peut exister qu'en Christ. Le péché a divisé les hommes en les séparant de Dieu. Mais l'œuvre et la gloire de la rédemption opérée par Jésus-Christ nous ont élevés jusqu'à l'unité que le Fils possède avec son Père. Jésus prie pour ses disciples, comme nous sommes en train de le lire, mais il a aussi lui-même agi pour eux lorsqu'il était avec eux. Il le dit aussi dans la suite, « Lorsque j'étais avec eux, je les gardais. J'ai protégé ce que tu m'as donné. » Et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun d'eux ne s'est perdu. Un combat existe sur la terre. Un combat, et pas que sur la terre même pour l'instant, mais un combat entre Satan et son armée, avec les forces placées sous l'autorité de Dieu, Jésus à leur tête. Un combat terrible. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, ce que Jésus a dit, et que j'ai dit tout à l'heure, au verset 33 du chapitre 16. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu l'ennemi. Voilà ce que ça veut dire. Il ne peut rien vous arriver, d'un point de vue spirituel, j'entends, lorsque vous êtes avec Jésus, sous son regard, sous sa protection. Lorsque ses brebis entendent sa voix, Jésus les connaît et elles le suivent. Et alors, son Père, qui les lui a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de son Père, de la main de Dieu. Jean au chapitre 10. Alors oui, maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Dans Jean chapitre 15, versets 9 à 11, Jésus dit aussi « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus veut que ses disciples qui sont là regroupés autour de lui et qui l'entendent soient réconfortés par sa prière. Qu'ils obtiennent grâce à l'assurance de la protection divine qu'il implore pour eux, la plénitude de sa joie. Une joie qui provient d'une relation solide et profonde avec Christ, lui, la source de toute joie. Une joie véritable qui seule peut les aider, peut nous aider à traverser les adversités, à aller au-delà de toutes circonstances. Seule qui peut nous donner une stabilité dans notre vie. Des obstacles, les disciples en rencontreront. Verset 14, le monde les a détestés. Parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Jésus le premier a été détesté, haï. Il fut humilié, maltraité. Les foules ont crié devant lui pour qu'il soit crucifié, pour obtenir sa mort. La parole divine que Jésus a donnée à ses disciples les a séparés du monde et de la corruption qui y règne. Et à cause de cette séparation, les disciples ne pouvaient pas être aimés du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient selon des valeurs différentes de celles du monde. Le monde vit selon les principes et la tactique de Satan, du diable. Mais en suivant Christ, nous vivons selon Dieu. Et par le simple fait donc qu'ils ne se joignent pas au monde pour pécher, les disciples de Christ deviennent alors des accusateurs vivants de son immoralité. Or, se sentir accusé, remis en cause, en continu, qui aime cela ? Peu de monde et même en réalité personne. Si ce n'est peut-être ceux que Dieu lui-même a choisis, ceux à qui Dieu va ouvrir les yeux, ceux qui alors viendront à la repentance. Et en restant fidèles à Christ, les disciples devenaient alors pour ces hommes des révélateurs du péché. Pour ces hommes, pour ces femmes donc, les disciples montraient que autre chose existait, qu'une solution, un remède existait. Et que ce remède, eh bien, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Alors oui, le monde les a détestés. Jésus savait ce qui allait arriver pour ses disciples et ses apôtres par la suite. Et pourtant, Jésus ne demande pas à ce que ses disciples soient retirés du monde, mais plutôt que Dieu les préserve du mal. Il veut que les disciples restent dans ce monde, pour le bien du monde, pour la gloire de Dieu. Leur travail sur la terre n'est pas terminé. Dieu veut qu'ils soient désormais justement les moyens, les instruments qu'il va utiliser pour le salut de leurs frères. Et ce salut ne proviendra pas d'eux, de leur force, de leur propre force, de leur sagesse, non. Le salut ne peut venir que de Christ lui-même. Mais Dieu veut utiliser ses disciples dans le monde pour être sel et lumière. Vous êtes le sel de la terre, peut-on lire dans Matthieu au chapitre 5. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi Jésus, que vous laissez disciples, ne soit pas retiré du monde. Alors chacune de ces requêtes de Jésus, l'unité entre ses disciples, voir sa joie se répandre en eux, qu'ils soient protégés du malin. Expose et amplifie aussi en fait le thème de toute la prière. Et ce verset notamment que notre frère, encore une fois, nous a partagé aussi il y a quelques semaines. Le verset 17, « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Si on prend la version Darby, le mot « consacré » est remplacé par « Sanctifie-les par ta vérité. » Alors par cette requête, Jésus demande premièrement à ce que ses disciples soient consacrés au service de Dieu. Et c'est le premier sens, on va dire, du mot consacré, ce qui est confirmé aussi par le verset 19, où Jésus lui-même dit « Et je me consacre, ou je me sanctifie, encore une fois, selon la version d'Arby, moi-même pour eux. » Celui qui dans toute sa vie fut saint et juste n'a pas besoin de se sanctifier, dans le sens ordinaire justement de ce mot, c'est-à-dire d'être purifié du péché, lui qui de nature était saint, parfait, sans tache. Mais la sanctification de notre Seigneur était sa consécration à l'accomplissement du dessein divin, sa volonté d'obéir parfaitement à la volonté du Père. Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Tout ce que Jésus a accompli durant sa vie sur terre était destiné à nous libérer de l'esclavage du péché, pour que nous devenions des serviteurs de la justice. En intercédant ainsi, Jésus demande donc que tout son peuple soit ordonné par le Père et consacré au service de Dieu. Je vais reprendre un petit commentaire de Charles Spurgeon qui l'a partagé ainsi. Nous n'appartenons pas au monde, sinon nous serions ambitieux. Nous n'appartenons pas à Satan, sinon nous pourrions être cupides. Nous ne nous appartenons pas, sinon nous pourrions être égoïstes. Nous sommes achetés à un prix, et donc nous sommes à lui par qui le prix est payé. Nous appartenons à Jésus, et il nous présente à son Père et le supplie de nous accepter et de nous sanctifier à ses propres fins, pour son service. Mais en même temps, bien sûr, par cette prière, par ce verset, Jésus demande à son Père de les sanctifier au sens habituel du terme. Pour qu'un serviteur de Dieu soit ainsi consacré dans sa vocation, il ne peut l'être que s'il l'est en fait avant tout intérieurement. Si les disciples ne sont pas purifiés du péché, de toutes ses influences, alors celles-ci souilleraient, ruineraient leur témoignage. Cela les empêcherait de glorifier, d'honorer Dieu. Et cette sanctification, seul Dieu peut l'opérer, par l'œuvre de son Esprit Saint. Nous pouvons maintenir une croyance conforme à la doctrine, et c'est important de le faire, mais si elle ne touche pas notre cœur, si elle n'influence pas notre caractère, que vaut cette doctrine, cette vie bien rangée, ces croyances ? Et il faut comprendre que ce n'est pas la doctrine justement qui sanctifie d'elle-même, mais c'est bien le Père qui sanctifie au moyen de la doctrine. Frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, il n'y a aucun doute à avoir quant au fait que nous sommes justifiés, nous sommes purifiés de tous nos péchés passés, présents et à venir. Cette justification est parfaite au moment où elle est reçue. Celui qui est justifié une fois pour toutes par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Mais la sanctification, elle, c'est une question de croissance. Ce qui est charnel ne peut pas entrer en communion avec Dieu, alors nous avons donc besoin d'être aussi délivrés justement de notre chair. Que la nature spirituelle, au final, s'élève au-dessus de ce qui est simplement naturel. Et pour cela, Dieu lui-même doit agir en nous, le Saint-Esprit doit nous habiter. Pour cela, Dieu nous a donné sa parole, la vérité. Et c'est bien dit, hein, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Un disciple se purifie, se consacre à Dieu en croyant et en obéissant à la parole de Dieu. Seule l'Écriture est vérité absolue, vérité essentielle, vérité décisive, vérité faisant autorité et vérité éternelle. Et sa mise en pratique quotidienne a un effet purificateur sur notre esprit, sur notre cœur. L'Écriture met en évidence le péché, nous pousse à y renoncer, renouvelle notre relation avec Christ et nous ramène dans le droit chemin. Alors frères et sœurs, cette prière que Jésus fait pour ses disciples devrait aussi être la nôtre chaque jour. Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, sanctifie-moi. Oui, prions notre Père de nous sanctifier, car lui seul peut nous accorder la sanctification, car c'est le don de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Je continue avec le verset 20. Jésus a prié pour ses disciples, mais Jésus a aussi prié pour tous ceux qui, dans l'avenir le plus éloigné, croiront en lui et seront sauvés. Donc, frères et sœurs, Jésus a prié pour nous, pour vous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas encourageant? Quel réconfort au final de savoir que Christ a intercédé et intercède encore aujourd'hui pour nous. Mais pour bénéficier de cette intercession, hein, c'est bien écrit, il nous faut croire en lui. Si nous ne le reconnaissons pas comme le Fils de Dieu, comme celui qui est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous, pour prendre sur lui tous nos péchés, comme celui qui est ressuscité, alors nous ne bénéficions pas de sa justification, du salut par la grâce, et donc nous n'appartenons pas à Dieu, à sa famille. Et Jésus n'intercédera pas pour nous. Alors si quelqu'un ce matin n'est pas encore enfant de Dieu, n'a pas encore accepté Christ comme son sauveur, n'attendez plus. Il est encore temps. Laissez-le agir en vous et découvrez cet amour, cette grâce infinie qu'il veut vous donner. Et à vous qui êtes, frères et sœurs, déjà chrétiens, j'ajouterai ceci. On pense parfois que nous sommes bien trop peu de choses, bien trop misérables pour que Dieu, pour que Christ s'intéresse à nous. On peut penser que parce qu'on est tellement imparfait, qu'on tombe tellement au-dessous en fait de notre propre idéal, que par conséquent, Christ ne nous aime peut-être pas beaucoup. Et ces pensées peuvent vraiment traverser l'esprit de n'importe quel chrétien. Mais rappelez-vous alors toujours ceci. Aussi faibles que nous sommes, aussi petite que soit notre foi, Christ nous aime. Et nos noms sont écrits sur son cœur. Vous êtes précieux pour Christ, et croyez-le. Jésus n'intercède pas juste pour certains chrétiens, quelques saints qui ont atteint un certain niveau de maturité spirituelle, non. Il prie pour ceux qui croiront en lui. À travers la prédication de sa parole, il prie pour tous les enfants de Dieu. Il parle de nous tous, ô Père, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, comme tu m'as aimé. Jésus sait, pour avoir vécu en tant qu'homme et aussi au milieu des disciples, combien il est difficile, même à ceux qu'il aime, de s'accorder entre eux. Aussi, toute cette troisième partie de son intercession concerne aussi l'union de tous ses membres dans la communion du Père et du Fils. Cette unité qu'il avait déjà demandée spécialement pour ses disciples, d'ailleurs au verset 11, il prie Dieu de la réaliser dans tous ses enfants. Que nous soyons un, comme Christ est un avec son Père, et le plan de Dieu de toute éternité. Mais une telle unité n'est possible que parmi les disciples sanctifiés. Alors implicitement, il y a donc dans la demande d'unité spirituelle des croyants un appel, encore une fois, à leur sanctification. Si nous demeurions tous pleinement en Christ, nous devrions demeurer en union les uns avec les autres et avec Dieu, et la prière de notre Seigneur pour l'unité de son Église serait exaucée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On peut le lire dans 2e Épître aux Corinthiens. Soyons en Christ. Ne cherchons pas à atteindre cette unité entre chrétiens à l'aide de nos propres capacités. Nous n'y arriverons pas. Et on le voit quand on regarde autour de nous, toutes ces églises et même chez nous, il peut y avoir des tensions, des divisions, c'est difficile de s'accorder. Si nous essayons par nous-mêmes, nous échouerons. Mais demeurons en Christ. Cette unité dont il est question repose sur l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Les chrétiens ne seront unis entre eux que s'ils vivent en étroite relation avec Dieu. Chaque sarment rattaché au cep est alors uni à tous les autres sarments. Par le cep, par Jésus. Alors frères et sœurs, encore quelques questions pour ce matin. Vivez-vous cette unité en Christ et donnée par Christ? Priez-vous pour vos frères et sœurs en Christ? Travaillez-vous avec eux dans l'humilité? Contribuez-vous, pardon, à leur édification. Évitez-vous les commérages. Donnez-vous de votre temps, de vos biens, pour Christ, pour les enfants, pour ses enfants. Laissez-vous tout simplement la place d'honneur à Christ. Contribuez-vous à resserrer les liens dans l'Église. Oui, la volonté de Dieu est que cette unité entre chrétiens soit visible. Qu'elle se voie afin qu'ainsi le monde reconnaisse que Dieu a envoyé Jésus et qu'il les a aimés comme il a aimé Christ. Jésus désirait que nous soyons un, car cette unité est un puissant témoignage que Jésus est l'envoyé de Dieu et par là de la réalité de l'amour de Dieu. Pour le monde, la vue d'une société fraternelle est la meilleure démonstration de la toute-puissance de l'Évangile pour transformer le cœur de l'homme. Oui, merci Seigneur pour tous ces témoignages d'hommes et de femmes de foi. D'hommes et de femmes dont la vie est un exemple pour nous en commençant par la vie des apôtres. Voir ce qu'ils ont réussi à faire par leur vie, consacrée à toi, par ton nom, pour la gloire de Dieu doit être un encouragement pour nous à persévérer sur le chemin de la foi. Mais malheureusement, bien des vies chrétiennes sont loin, très loin de ce témoignage de Christ vivant en elles. Et qu'en est-il de la nôtre ? Vivons-nous une vie en Christ, une vie victorieuse ? Ou contentons-nous de dire « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Frères et sœurs, soyez ce témoignage. Soyez en Christ, cherchez-le et soyons unis. En nous rappelant toujours que la base de cette unité, selon Dieu, la force de cette unité, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons vivre cette pleine unité, alors dans ce cas, ne discutons plus la parole de Dieu, mais acceptons-la, acceptons sa parfaite autorité dans nos vies et dans nos églises. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Quelque temps auparavant, Jésus venait de faire cette promesse à ses disciples. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, il demande à Dieu de réaliser cette promesse. Pas pour tout de suite, mais pour son retour. Il prie pour cela, mais même c'est pas juste il prie, il veut. C'est inhabituel, c'est même peut-être la seule fois, ou en tout cas très rare, je pense que c'est peut-être la seule fois, on peut voir vraiment Jésus qui dit à son Père, « Je veux. » Pendant qu'il était sur la terre, il n'a jamais mentionné sa propre volonté. Il pouvait dire, « Je veux que tu sois malade, oui. » Mais ce n'est pas pour lui, c'était vraiment pour le salut, pour guérir une âme. Que tu sois malade, pardon, que tu sois guéri. Excusez-moi. Non, mais... Excusez-moi. Mais là, ici, ce « je veux » nous confirme en réalité ce que nous avons vu un peu tout à l'heure, à savoir que Jésus a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Par conséquent, attendant désormais avec le moment où l'œuvre, où son sacrifice serait complet, où son avènement aurait lieu, il peut désormais maintenant manifester sa propre volonté. Une volonté qui, bien sûr, est comme toujours en parfaite harmonie avec celle du Père. Mais une volonté qui est là que, où il est, tous ceux qui croient en lui soient également avec lui. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Afin que nous puissions voir Jésus, voir son visage. Que nous puissions contempler la gloire de Christ. Que nous puissions voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Jésus termine cette prière avec ces deux dernières phrases, versets 25 et 26, « Père juste ». Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Deux dernières phrases, où en faisant appel à la justice divine de son Père, « Père juste », Jésus attend d'elle l'exaucement de sa prière pour les siens, pour qu'en exaucant sa prière, Dieu achève son œuvre en eux. pour que l'amour dont Dieu a aimé Christ lui-même soit en nous, et que Christ soit en nous. Amen.